Radio 6 Romande la Première, Recto Verso, Alain Maillard.
Recto Verso ce soir, en compagnie maintenant d'Olivier Seelig. Nous ne sommes plus avec Jean-François Sonnet, qui était donc au téléphone avec nous de Côte d'Ivoire, pour évoquer Yvan, le bazooka, les dingues et moi, son roman paru aux éditions Campiche. Autre livre donc sélectionné pour le prix des auditeurs de la radio suisse romande, le vôtre, Olivier Seelig, qui s'appelle Deux bons bougres, aux éditions Encre Fraîche. Alors c'est un roman assez étonnant, qui se passe tout au long du XVIIIe siècle, entre ce qui commence à Lausanne, finit à Lausanne, mais se passe un peu partout entre l'Europe et l'Amérique. Comment est né ce vaste projet ?
Quand j'ai écrit le roman, j'habitais à Verchères-les-Blancs et j'ai lu un livre d'Isabelle Ange-Sorge qui s'appelait Prendre d'aimer, et c'est un peu rebondissant là-dessus, et puis un livre de Garzaroli qui s'appelait Les brigands du Jura. Alors de là-dessus, je suis parti sur l'hypothèse d'une rencontre entre un brigand du Jura et un fils de notaire en 1700 et des poussières. Et puis après, je les ai suivis. Je suis beaucoup avec naïveté mes personnages. Ça veut dire une fois que je les ai lâchés dans la nature, je ne fais plus que regarder ce qu'ils font.
C'est-à-dire que vous commencez à écrire sans savoir où vous allez avec eux.
En gros, oui. J'ai une idée. Il y a une image que j'aime bien, c'est ce petit chose qu'on avait quand on était gamin, je crois que j'en ai retrouvé dernièrement, qui est un coquillage qui était cerclé par un bout de papier qu'on mettait dans l'eau, et puis le coquillage s'ouvrait petit à petit, puis il y avait une fleur en papier qui se déployait. Alors j'aime assez cette image parce que j'ai l'impression que quand je commence un roman, j'ai l'intuition de l'objet qui va se développer, puis après je peux le suivre et l'accompagner, et suivre les aventures, ce qui fait qu'aussi je m'ennuie pas, parce que je découvre en même temps que mes personnages ce qui leur arrive.
Comme si quelqu'un d'autre vous racontait l'histoire.
Un petit peu, ouais. Ouais.
Ce roman, vous l'avez écrit il y a longtemps, en oui. fait. Hein, et, oui. et il n'a pas paru tout de suite. Qu'est-ce qui explique ce décalage?
Mais dans tous les textes que j'écris, il y a un sacré décalage. Ça veut dire qu'ils ne paraissent pas dans l'ordre, ils mettent du temps à trouver des éditeurs. Ils ont pourtant bien accueilli après, et tout est toujours à recommencer, et je ne sais pas. Il y a une raison, c'est que je change passamment de genre. J'écris de la science-fiction, j'écris un roman qui se passe dans les années 70, j'écris un roman qui se passe à l'an 1000, j'en écris encore d'autres qui se passent dans le futur, etc. Donc probablement les gens sont un peu déconcertés. Pourtant après, quand ils paraissent, les échos sont bons, les réactions sont en général bonnes.
Ouais. C'était donc il y a 16 ans, c'est Sophia, oui, que vous l'avez écrit. Ouais. Comment le relisez-vous aujourd'hui, 16 ans
Alors j'étais un peu en souci. Et puis, mis à part des choses de style que j'ai rectifiées, non, je l'ai relu avec plaisir et il n'y a rien que je renie. Il y a une ou deux petites choses que j'ai coupées, mais plus parce qu'elles me semblaient inopportunes ou parce que c'était trop long.
Mais est-ce qu'il y a une part d'étonnement, peut-être? Tiens, où étais-je donc allé chercher tout ça?
Oui, mais ce que j'aime bien, c'est quand je relis un texte après un certain temps, si je l'ai suffisamment oublié, ça m'est arrivé pour quelques nouvelles. Puis je me dis, ah, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est vachement bien. Je suis soulagé parce que je me dis, ah, ben, parce que quand on a lu un texte 10 fois, 20 fois, 30 fois, les bras vous en tombent, on s'endort. Et...
Un critique à propos de votre roman, Olivier Seelig, parle de roman d'initiation. Est-ce que ça vous parle?
Oui, puisqu'on suit deux adolescents de 17 ans jusqu'à 29 ans, et encore dans les très grandes lignes après, c'est effectivement un roman d'initiation où on découvre l'amour homosexuel, hétérosexuel, la vie, la paternité et le monde tragique dans lequel il vivait, comme à mon avis nous vivons aussi.
Mais ce monde du XVIIIe siècle, comment l'avez-vous découvert vous-même?
J'ai une théorie qui est beaucoup plus anglaise qu'américaine, c'est que rien de ce qui est humain m'est étranger. Ça veut dire que si j'essaye d'imaginer les choses avec conviction, j'ai de fortes chances d'être vrai. J'ai fait deux films. Un film qui se passait en Afrique, j'étais jamais allé en Afrique, j'ai complètement inventé. Ce film est passé dans des festivals africains et les gens croyaient que c'était fait en Afrique. Donc j'étais sur la bonne longueur d'onde. J'ai l'impression que, en gros, le 18e siècle, je peux faire la même chose. Il suffit de faire abstraction de la télévision et d'un certain nombre de choses. À part ça, je me suis passamment documenté. Ça veut dire que j'ai potassé des bouquins, etc. Et puis j'ai essayé de ne pas dire des bêtises. Entre la première version et la version de maintenant, il y a une chose qui a changé, c'est que les gens buvaient souvent dans des bouteilles. Or, au 18e siècle, c'était très rare qu'on boive dans des bouteilles, donc j'ai enlevé les bouteilles.
Voilà, des petites précisions de ce genre, mais sur les mentalités, vous les captez
Ah, ça, je pense que c'est quand même un récit écrit par un homme du 20e ou du 21e siècle. Et je pense qu'il y a des choses qui sont... Je ne pense pas qu'on pensait comme ça à cette époque, mais je ne peux pas. C'est comme le vocabulaire, je ne vais pas choisir des mots exclusivement du 18e siècle. Mais, je crois que ce n'est pas possible.
Mais qu'est-ce qui vous a attiré, au fond, de situer l'action à cette époque et pas aujourd'hui?
Ben, je voulais raconter une histoire d'aventure. Je pense que ça, l'époque se prêtait mieux qu'aujourd'hui. Les histoires que j'écris qui se passent aujourd'hui sont probablement moins aventureuses.
J'aimerais lire maintenant un petit extrait, enfin c'est le tout début de votre livre, Olivier Sillig, où il est question de ce terme de bougre qu'on va peut-être expliquer un peu, parce qu'on en a peut-être une vague connaissance, mais peut-être mérite-t-il d'être plus précisé. Il ne faut pas prendre ce récit pour l'éloge de la bougrerie, quand bien même je dois la vie à la bougrerie. Entendons-nous, ni mon père ni ma mère ne furent bougres. Mon père était un homme tout à fait ordinaire, un bourgeois, notaire de son état. Il tenait une étude bien en vue sur la place Saint-François à Lausanne. Quant à ma mère, même si elle a toujours eu le sein maigre et parcimonieux, c'était bien une femme, ou elle l'est devenue, dans les bras de mon père et par les voies normales. Cette vie que je dis devoir à la bougrerie, ce n'est donc pas celle du nouveau-né, celle que, comme tout un chacun, j'ai reçue à la naissance, mais celle qui recouvre mes 72 dernières années d'existence. Je ne les aurais pas connues, Martin me l'a maintes fois confirmé et ses yeux me le criaient au moment même, si je n'avais pas eu la soudaine révélation de me faire bougre sur le champ. Bougre donc, Martin et moi l'avons été, follement, par nécessité d'abord, par plaisir ensuite. Jamais nous ne l'avons regretté, même quand Martin se consumera sur son bûcher ardent. Mais nous avons aussi aimé les femmes, par-dessus tout celles que nous n'avons ni forcées ni payées, que quelquefois nous nous sommes partagées ou qui nous ont partagées, sans pour autant nous séparer, ce que seules les maudites flammes purificatrices ont réussi à faire. Seigneur, combien tu dois haïr cette pureté infâme qu'on t'offre en des fumées nauséabondes. Alors effectivement, Olivier Sillig, là on voit qu'il va se passer des choses dans votre histoire qu'effectivement il ne se passerait peut-être pas aujourd'hui, notamment le bûcher.
Probablement pas, et encore.
Qu'est-ce que ça veut dire alors, bougre exactement?
Alors bougre, ça veut dire homosexuel. Quand j'ai écrit le livre, c'est un mot, je crois qu'on ne trouvait pas facilement de définition dans ce sens-là, mais c'était Pierre Merle, je crois, qui utilisait ça dans un roman qui se passe au XIIIe siècle, et puis j'ai utilisé ce terme, je le trouvais plus amusant. Et depuis, j'ai revu, maintenant sur Internet, c'est un terme qu'on trouve assez fréquemment dans des trucs rétrospectifs sur l'époque.
Ces deux personnages, Olivier Sillig, vont donc traverser toutes sortes d'aventures et d'événements plus ou moins tragiques. Dans quelle mesure c'est une métaphore de la vie telle que vous la concevez pour vous-même?
T'as peine à dire comme ça. Ce que je sais, c'est que quand j'écris un livre, j'ai envie d'aborder une certaine thématique. Là, par exemple, beaucoup la thématique de la violence, de la guerre et de la chair à canon. Il y a toute une partie sur la chair à canon où on envoyait les gens se faire tuer par 30 000 par journée pour amuser les princes, choses qui se font encore actuellement. Et puis, je sais maintenant que quand j'écris un livre, quand ça marche, j'ai une autre couche. Ça veut dire qu'il y a un autre moteur en moi que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas, que je ne surveille pas, qui raconte une histoire qui m'est probablement plus personnelle, plus profonde. Quelquefois, il y a des sens qui me paraissent longtemps après, et je crois que c'est vraiment très très bien quand j'arrive à travailler avec ces deux choses. Une partie consciente qui est une histoire que j'ai envie de raconter, et une partie inconsciente qui raconte autre chose, qui sont éventuellement des combats intérieurs que j'ai connus, que je connais, ou que je connaîtrai.
Donc cette écriture vous a appris quelque chose sur vous-même?
Oui, bien sûr.
Ouais. Ouais. Vous pourriez dire, par exemple, ce que ça vous a appris?
Donc, c'est un livre qui parle pas seulement d'homosexualité, d'hétérosexualité, etc. Donc, par exemple, c'est un livre qui m'a probablement permis de mieux cerner mon identité ou mes doutes. Et puis, je crois quand même, c'est assez étrange que tous mes livres racontent des histoires de combats, de guerres, d'emprisonnement, de liberté, etc. Et ça, je crois pas que je sois quelqu'un de très solide. Et je crois que ces combats, ils existent en moi ou ils ont existé de manière peut-être très, très primitive, peut-être même vaguement inquiétante, même si je les maîtrise très bien dans le sens où j'arrive à avoir une vie tout à fait ordinaire.
Mais ça bouillonne à l'intérieur.
Oui, et puis je pense que ça a beaucoup bouillonné longtemps avant.
Radio 6 Romande la Première, Recto Verso, Alain Maillard.
Recto Verso en compagnie d'Olivier Sillig, auteur d'un des 6 livres sélectionnés pour le prix des auditeurs de la radio suisse romande, Deux bons bougres aux éditions Encre Fraîche. Au début de ce livre, il y a une lettre dans laquelle quelqu'un parle de la vie de votre héros, André. Et ce Nicolas dit d'André qu'il a plongé dans la vie à corps perdu par amour de cette vie. Avez-vous, vous aussi, Olivier Sillig, un tel amour de la vie?
Mais c'est un peu paradoxal. Je crois que, par exemple, les gens croient que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui suis très occupé, qui suis très créatif, qui suis très productif. Moi, j'ai plutôt l'impression contraire, mais je veux pas trop détromper les gens. Et je pense qu'il y a les deux mouvements. J'ai un mouvement un peu de me laisser aller, un peu comme ça, et puis un mouvement très combatif qui fait que je tords le cou et aux idées noires et je suis un garçon dynamique, je crois.
En tout cas, vous avez exercé
beaucoup de choses.
Vous avez exercé de très nombreuses activités. Il y a eu du théâtre, du cinéma, de l'informatique, de la psychologie, non?
C'est-à-dire, j'ai fait une formation de psychologue, puis j'ai exercé pendant une année les poussières, puis j'ai décidé que c'était vraiment pas un métier pour moi. Et après, j'ai bifurqué sur l'informatique, qui était par contre un très bon métier.
Ouais. Pourquoi c'était pas pour vous, la psychologie?
Oh, parce que je crois que j'étais un peu trop moi-même interpellé par une problématique personnelle, et puis parce que c'était de la psychologie pour enfants, et je trouvais toujours qu'on travaillait pour les parents ou pour l'école, et jamais pour les enfants. Souvent, on recevait des enfants, on parlait aux parents, on parlait pas aux enfants, et je trouvais ça extrêmement désagréable. Surtout qu'au même moment, j'ai fait moi-même des enfants, et j'ai essayé de leur parler directement à eux.
L'écriture, c'est aussi beaucoup de la psychologie, non?
Non, pas du tout. Du tout. C'est une, en tout cas, la mienne, elle se veut pas du tout psychologue. Mm-hmm. C'est une écriture qui décrit les choses, qui, en général, en plus, est très visuelle et qui évite de tirer des...
C'est plutôt événementiel, comme,
voilà,
comme vous écrivez,
ouais,
effectivement,
ouais.
Olivier Sillig, mais il faut quand même imaginer le caractère de vos personnages, non?
Oui, c'est donc justement, c'est pas du tout psychologique.
Quelle est la différence? C'est-à-dire qu'on cherche pas à comprendre pourquoi on est comme
voilà,
on est.
Voilà, le pourquoi. Des choses, des êtres et des choses, c'est le travail du psychologue. Et le être, c'est le travail de l'écrivain. Si ouais. J'écris un dialogue, j'essaye pas... Du moins, je ne réveille pas les mécanismes du dialogue. Et même, à mon avis, je peux travailler de manière beaucoup plus épidermique, qui consiste à ne pas comprendre mes personnages, mais à entrer dans leur peau.
Mais il est bon qu'il y ait du mystère.
Qu'il y ait du mystère dans le roman.
Dans ce qui fait que chacun est comme il est.
Oui. Je veux dire, à mon avis, à part soi-même qu'on connaît de manière intérieure, les autres gens, on les connaît que par ce qu'ils font, par ce qu'ils sont et par ce qu'ils disent. Ouais. Ils nous restent extrêmement mystérieux, même des gens très proches. Et je sais pas si c'est bon ou pas, c'est comme ça.
Vous avez donc quitté la psychologie pour l'informatique. Là aussi, vous avez changé après un certain temps. Au fond, qu'est-ce qui fait que vous changez régulièrement d'activité?
Un certain nombre de concours de circonstances aussi. Mais je crois que je déteste m'ennuyer. Ouais. C'est aussi pour ça que dans les je suis étonné par certains de mes confrères écrivains, ils écrivent toujours le même livre. Et moi, j'essaye que chaque livre soit pour moi une découverte de quelque chose de nouveau pour éviter de m'ennuyer. Mm-hmm. Et je pense que c'est en gros le moteur de mes activités, de mon existence, c'est ça, avec quelques erreurs de temps en temps.
Ouais.
Et c'est... Il reste un plan de carrière qui est pas très bien construit. J'ai peut-être lâché l'informatique un peu vite, etc. Ouais. Surtout que c'était très lucratif et que j'aimais bien ça. Mais...
L'écriture, c'est le meilleur moyen que vous ayez trouvé jusqu'à maintenant pour éviter l'ennui?
Oui, les périodes où j'écris, je suis vraiment très heureux. C'est des périodes où je plane, etc. Bon, on peut quand même pas écrire 365 jours par année. Mais cette année, je suis à peu près à 300 jours, en tout cas.
Ah, c'est beaucoup.
Bah ouais.
Et vous y êtes venu, apparemment, en racontant des histoires à vos filles?
C'est comme ça que j'ai découvert le plaisir de raconter. On a beaucoup raconté d'histoires à nos filles, ou lu quelques-unes, ou réinventé des histoires, etc. Je leur ai raconté, quand elles étaient toutes petites, un truc que j'avais appelé « Introduction à l'histoire de l'humanité ». parce que j'avais vu La Guerre du Feu et j'avais brodé là-dessus. Elles avaient 5 et 7 ans et elles suivaient ça. Ça marchait très, très bien. En plus, avec les enfants, on a un feedback immédiat. C'est-à-dire, on se rend compte si ils entrent dans l'histoire ou pas. Ce n'est pas un problème de vocabulaire puisque je leur ai lu à la même époque Peter Pan en français, mais la version de... Je ne sais plus comment il s'appelle, l'auteur. Je me suis dit, mais elles ne vont rien comprendre. Elles comprenaient tout. Elles ne se sont jamais dit d'arrêter. Elles voulaient qu'on continue, etc. Mmh. Alors, c'est par là que je suis allé. Puis après, j'ai fait un peu de one-man show sur mon vélo. Un peu parce qu'on m'avait demandé, etc. Donc, j'ai fait encore de la narration orale. Puis, j'ai commencé à écrire sur mon vélo.
Comment
C'est-à-dire que je construisais tout le texte dans ma tête, sur mon vélo. Puis, je rentrais à la maison, puis je le posais sur le papier. Et puis malheureusement, ça marche moins bien. Maintenant, en vélo, je prends mon vélo, m'accapare un peu trop. J'ai moins l'esprit libre. Donc, pour écrire, maintenant, je me promène à un moment et après, je pose sur le papier.
Mais donc, il faut que ça mûrisse en vous.
Et puis, l'activité physique, c'est vraiment... si je bouge, je suis beaucoup plus créatif que si je reste assis devant mon bureau.
Ce roman de bon bougre a donc attendu 16 ans pour être publié. Il y en a d'autres qui attendent d'être publiés, Olivier Sillig?
Oui, il y en a tout plein.
Tout plein.
Oui. Mais il y en a quelques-uns qui sont en circulation. Il y en a un qui devrait paraître chez Encre Fraîche cet automne. Et il y en a quelques autres qui circulent ailleurs. Mais c'est toujours un peu compliqué, douloureux et surprenant.
Mais quand on écrit 300 jours par année et qu'on a tant de romans qui en attendent d'être publiés, comment peut-on dire, comme vous dites de vous-même, que vous êtes un dilettante?
Je ne me souviens pas très bien d'avoir dit, mais...
Ouais. Mais c'est justement en lien avec le fait que vous exerciez diverses activités.
Moi, je crois, même en cuisine, que je fais toujours mieux et bien ce que je n'ai jamais fait. Hein? Et donc, par exemple, en cuisine, si j'essaye de refaire une même recette, et ben, la deuxième fois, elle ne sera pas terrible. Donc, j'aime bien essayer des nouveaux trucs.
Ouais.
Et j'ai pas appris à écrire. L'informatique m'a été extrêmement précieuse pour l'écriture. Je pense beaucoup plus que si j'avais fait des lettres. Parce que l'informatique, du moins dans les développements que j'ai fait, c'est un endroit où il faut inventer beaucoup de choses. En même temps, il faut avoir une rigueur terrible parce que si on a inventé un truc qui mène nulle part, l'ordinateur se plante. Et depuis que j'ai fait ça, je pense que ça m'a permis d'acquérir la rigueur qu'il faut pour avoir sur 300 pages des personnages qui soient cohérents, qui apparaissent ou disparaissent au bon moment, qui ne soient pas contradictoires, etc. La non-contradiction en roman, elle est importante, sauf si on la développe exprès. Mais...
Mm-hmm. Le prochain que vous écrirez, vous savez déjà ce que ce sera?
Oui, ce sera probablement une histoire qui va se passer en 1975, dans une communauté dans le sud de la France, dans les communautés dans lesquelles je n'ai pas vécu, mais que j'ai côtoyé.
Et quelle est l'intention, au fond?
L'intention, c'est de raconter comment se constitue l'identité d'un garçon auquel la communauté tient lieu de ciment. Et quand la communauté se désagrège, comment il se désagrège ou comment il lutte la contre. Je ne sais pas encore, je vais suivre ses aventures.
Voilà. Et là encore, avec une part initiatique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend à vivre, au fond?
Oui, mais je veux dire... Si on est un écrivain romanesque, qui est mon cas, il faut qu'il y ait une quête, quelle qu'elle soit, qui peut être absurde, puisque c'est un roman où c'est l'histoire d'un monsieur qui doit livrer un radiateur et qui n'arrive pas à livrer son radiateur. Mais sa quête, c'est quand même livrer son radiateur. Et c'est un tout petit peu ce qui différencie notre existence quotidienne à certains d'entre nous, dont moi. Dans un roman, c'est que dans un roman, c'est un tout petit peu plus passionnant. Quand j'écris, je vibre au rythme des aventures de mes héros.
Mmh. Mais vous êtes en quête, vous aussi?
Oui, 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 je ne sais pas. À part ça, malheureusement, comme je commence à avoir quelques cheveux blancs, etc., peut-être que ma quête ou les objectifs de ma quête s'amenuisent, je ne sais pas.
Mmh. Est-ce qu'il est bon de trouver? Parce qu'au fond, à ce moment-là, que faire après quand on a trouvé?
C'est le drame de tout apprentissage. C'est qu'à chaque apprentissage, il y a un rêve qui meurt. Et donc, je ne sais pas où... Quand on voit un enfant qui commence à marcher, on voit, il fait un pas, il rit, il fait un deuxième pas, il rit. Et pour lui, chaque pas, c'est une découverte et une joie. Et vous et moi, quand on marche, à part quelques cas exceptionnels, c'est pas que ça nous passionne. Il faut faire avec.
À vos enfants, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre essentiellement?
Rien, j'ai voulu être présent avec ma femme. On était très présents, on était très là. On s'est beaucoup occupé d'eux, sans avoir aucune... Rien à transmettre. Et je pense qu'on a eu bien raison. Dans ce domaine-là, je suis très fier de l'éducation qu'on leur a donnée. C'est juste une présence. Mais une sacrée présence, je veux dire. Et du reste, tout c'est... J'étais un peu inquiet quand j'ai fait des enfants. Je me suis dit, oh là là, ça va être dur. Après, quand l'adolescence est arrivée, je me suis dit, oh là là, oh là là. Et jusqu'à maintenant, elles ont maintenant entre 25 et 30 ans, j'ai jamais eu de déception ni de regret. Et je les suis. Je veux dire, elles font des choix, elles font ce qu'elles font, ce qu'elles veulent. Et je trouve que c'est bien. Non, ça, c'est des choses que j'ai faites, c'est ce que j'ai trouvé le plus amusant, le plus facile. Et le plus.
Le plus facile.
Oui, le plus facile et le plus gratifiant.
Et vous trouvez que c'est plus dur d'écrire des livres que d'élever des enfants?
Non, mais maintenant, si au niveau pragmatique, c'est simplement deux choses tout à fait différentes. C'est l'écriture, c'est une écriture, un travail individuel, solitaire, de construction sur lequel on est entièrement... On est Dieu quand on écrit. Tandis qu'avec ses enfants, heureusement, on est tout sauf Dieu.
Heureusement.
Oui, oui, heureusement. Mon Dieu.
Olivier Sillig, merci.
Radio 6 Romans de la Première, Recto Verso, Alain Maillard.
Quelques minutes.